Savourez nos différences.
Dire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine qui vous parle de cinéma tous les 15 jours sur Radio G. Dans l'équipe ce soir, on retrouve Lisa à la technique. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour Véronique.
Et Sandra. Bonjour Sandra.
Bonsoir à tous.
Quant au programme du jour, vous entendrez ce soir le portrait d'une actrice récemment oscarisée, mais que l'on voit à l'image depuis plus de 40 ans. Rendez-vous en fin d'émission pour tout savoir. Vous entendrez le réalisateur Nicolas Philibert, avec qui nous avons pu échanger sur son dernier documentaire sur l'Adamant. Il y a une question de santé psychique sur un bâtiment flottant à Paris. Mais pour commencer, Sandra va nous amener sur un autre sujet, l'utopie et la dystopie.
Ça semble mystérieux dit comme ça. Et oui, les samedis 1er et dimanche 2 avril se tenait à Angers le Geek Fest, le rendez-vous annuel des passionnés de culture pop ou de pop culture. Dans une ambiance hyper sympa et décomplexée, où se croisent fans de tous âges costumés à l'image de leurs personnages de fiction préférés, ces deux jours sont dédiés aux fondus de science-fiction et de comics, de jeux vidéo et de cosplay, de manga et d'animé, de steampunk et de cyberpunk. Et oui, on trouve tout cela au Geekfest. Et si, comme mes camarades, vous ne comprenez pas la moitié des termes que je viens d'employer, il va vraiment falloir que vous fassiez un rattrapage l'an prochain. Ou que je m'attelle à écrire de nouvelles chroniques pour expliquer tout cela. Mais pour l'heure, je m'arrête sur la thématique qui était le fil rouge cette année, à savoir utopie et dystopie, qui était notamment déclinée dans les domaines de la littérature et du cinéma lors de dédicaces et de conférences vraiment intéressantes. Déjà, posons les bases. L'utopie, c'est un récit qui se passe dans une société parfaite, idéale, où tout le monde peut être heureux dans toute sa diversité et où les mots démocratie, liberté et bienveillance ont un sens. Le tout dans une esthétique lumineuse et verdoyante, bien sûr. Vous l'aurez compris, utopie rime avec inatteignable et totalement irréaliste. Une fois qu'on a dit ça, ben a priori, la dystopie, c'est tout l'inverse. Une histoire qui se déroule dans un monde affreux, une société sclérosée où l'avenir n'a rien de bon, où l'homme est écrasé par le malheur, l'oppression et l'injustice, et dans l'ensemble, chacun lutte pour sa survie. Bon bah là, visuellement, on est plutôt dans noirceur et pollution. Ça, ce sont les définitions tranchées sur lesquelles on s'accorde. Mais quand on commence à creuser, on se rend compte que l'utopie de l'un peut être la dystopie de l'autre, puisqu'on n'a pas tous les mêmes idéaux, et que la plupart du temps, un film qui semble commencer comme une utopie tourne assez vite à la dystopie. Conséquence, du côté de la dystopie, sous branche de la science-fiction, il y a tout de suite plus de matière et des films déments qui font vraiment réfléchir. Des histoires qui ont souvent puisé leur inspiration dans la littérature. On pense à 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui ont d'ailleurs tous été adaptés au cinéma. La dystopie tend un miroir à la société de son époque, comme une mise en garde, en nous exposant un futur indésirable, qu'il soit faussement radieux comme dans Starship Troopers de Paul Verhoeven ou clairement invivable comme dans les Mad Max de George Miller. Évidemment, la dystopie se place dans un univers futuriste pour mieux dénoncer les défauts et dysfonctionnements de la société actuelle. La plupart du temps, on y fait face à des dérives totalitaires, comme dans les références littéraires que je viens de citer, des dérapages scientifiques, exemple Bienvenue à Gattaca, autour de la génétique, ou des développements technologiques, exemple Matrix, sur la dépendance humaine aux machines. La question de la crise écologique n'est pas en reste. L'un des films les plus marquants pour moi est Soleil vert avec Charlton Heston. En 1973, le réalisateur Richard Fletcher nous met face aux conséquences du réchauffement climatique et creuse le fossé entre les classes sociales. Dans un New York caniculaire, pollué et surpeuplé, il nous livre, sur fond d'enquête policière, une vision apocalyptique liée à l'épuisement des ressources naturelles et la crise alimentaire qui va avec. On écoute un court extrait en VF.
Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où, on achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la laitue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre ?
On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer.
Tu sais que tu m'agaces.
Alors, futuriste, Soleil vert naît en pleine émergence des partis écologistes aux États-Unis. Très sobre en termes d'effets, le long métrage nous immerge dans une atmosphère poisse, mais nous réserve aussi de jolies scènes autour du personnage de Sol, le vieillard qui nous rappelle que la vérité et la connaissance passent par les livres. Très éco-engagé, le film nous livre ce message : préservons notre environnement avant qu'il ne soit trop tard. C'était en 1973 et l'histoire se passait en 2022. Voilà, voilà. Pas très joyeux tout ça, me direz-vous. Pour ceux qui cherchent une lueur d'espoir partout, certains films, bien que sombres, invitent quand même les personnages à changer leurs conditions et trouver une liberté par l'action. Je pense à V pour Vendetta avec Nathalie Portman ou encore Les Fils de l'Homme de l'excellent Alfonso Cuarón sur lequel je m'arrête un instant. On est à Londres en 2027. Cela fait 18 ans que l'espèce humaine souffre de stérilité. Dans un climat de tension et de violence, Théo, interprété par Clive Owen, est missionné pour protéger l'ultime espoir du genre humain, qui, une jeune femme africaine mystérieusement enceinte. Je vous propose d'entendre un extrait en VF qui donne une idée du contexte.
Bon, c'est tous mis d'accord pour confier qui à nos frères et sœurs de renouveau planétaire.
C'est vrai.
Il va falloir réévaluer notre position.
Mais il n'y a aucune raison, il faut faire ce qu'on avait dit au départ.
Écoutez,
c'est tout.
Silence, on n'y arrivera pas, la police l'identifiera.
On trouvera un moyen, c'est ce que Julianne voulait.
On ne peut plus assurer la sécurité de la fille.
Écoutez, écoutez tous, elle sera mieux ici. Et son bébé est la bannière qui nous unira tous.
On a dit qu'on ne servirait pas de ce bébé à des fins politiques.
Mon bébé, c'est pas une bannière.
Appelez la presse, bordel.
Qu'est-ce qu'il raconte, lui-là ?
Quoi ? Attends, répète.
Rendez l'affaire publique.
T'as vu les infos ? Non, l'affaire est bien assez publique.
C'est pas ça l'important. Elle est enceinte.
Ah ouais, c'est ça. Tu crois que le gouvernement va dire « On a fait une bourde, les réfugiés sont des humains, en fin de compte ?»
Quelle que soit la situation, quelles que soient vos idées politiques, c'est hors sujet. Ce qu'il lui faut, c'est un médecin.
Ah, je vous en prie.
Il lui faut un docteur.
Le gouvernement va lui enlever le petit et présenter une Anglaise comme étant sa mère. Elle le reverra jamais.
T'as vraiment rien
compris. Personne ne prendra mon bébé.
On sait tous que notre gouvernement n'ira toujours que le premier bébé en 18 ans est de mère réfugiée.
Recherchez, qui plus est. Que quelqu'un explique à Monsieur Farron ce qu'on fait aux clandestins dans ce pays.
Il le sait, il a vu les cages.
La plus grande partie de son film en long plan séquence. Je cite le directeur de la photographie, Emmanuel Lubezki. La caméra est ici un personnage à part entière. Un personnage inquisiteur, nerveux, qui vous jette au cœur de l'action et vous donne le sentiment de la vivre en direct. Je ferme les guillemets. De fait, c'est une incroyable immersion. Je ne vous cache pas que je trouve ce film éprouvant, notamment par le reflet qu'il nous donne du monde actuel par bien des aspects. Mais l'ambiance est très réaliste, les acteurs sont formidables, la réalisation tient en haleine de bout en bout par sa virtuosité spectaculaire. Pour moi, ça avait vraiment été un film choc. Allez, pour finir sur une note un peu positive, j'ai malgré tout cherché des pistes d'utopie. Pas si simple à trouver, mais il y en aurait peut-être quelques traces dans les trois films suivants que je vous livre en vrac. Numéro 1, À la poursuite de demain de Brad Bird, qui nous dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Numéro 2, L'incroyable histoire de l'île de la Rose, film Netflix de 2020 qui nous raconte le rêve fou d'un ingénieur italien qui construit une plateforme en mer pour y vivre selon ses règles. Numéro 3, Pleasantville avec Toby Maguire et Reese Witherspoon qui nous apprennent que le bonheur ne réside pas forcément dans une vie bien réglée. Ce ne sont que des propositions. De mon côté, j'ai l'impression que les endroits où l'on touche à l'utopie du bout des doigts se trouvent souvent davantage dans des films d'animation. Par exemple, le Disney Atlantide, l'Empire perdu, inspiré par le mythe de Platon d'une île au peuple vertueux et sage. Ou encore, le Voyage du Prince de Jean-François Laguioni, qui nous révèle la communauté de la canopée qui a choisi de vivre à la cime des arbres en communion avec la nature. Et comment ne pas citer l'œuvre de Hayao Miyazaki, l'humaniste, féministe, écologiste au merveilleux potentiel poétique. En effet, dans pas mal de ses films, l'utopie est confrontée au réel. Entre autres, dans Le Château de Cagliostro, Nausicaa de la Vallée du Vent, Le Château dans le Ciel, Ponyo sur la Falaise. Je m'arrête là et je conclue donc sur cette question. Le cinéma d'animation nous permettrait-il finalement de réapprendre à rêver l'utopie? Je vous laisse y méditer sur la musique de Laputa du Château dans le Ciel.
Invitation de Cinéma Parlant et des 400 coups, le documentariste Nicolas Philibert est venu à Angers il y a quelques jours pour présenter son dernier film, Sur l'Adamant. Alors qu'il a filmé la clinique de Laborde dans son film La Moindre des Choses, sorti en 1996, Nicolas Philibert s'intéresse à nouveau au sujet de la psychiatrie. Ici, il nous emmène dans un hôpital de jour parisien et nous invite à observer comment les choses se passent, sans nous en dire beaucoup plus. Au cœur du film, des patients et des patientes, que l'on écoute, que l'on devine, ou que l'on regarde au sein de différentes activités. Ce documentaire a été récompensé de l'Ours d'Or à la dernière Berlinale, et vous pourrez le découvrir en salle à partir du 19 avril. On écoute Nicolas Philibert.
Alors Nicolas Philibert, vous venez présenter votre dernier film sur l'Adamant. Dans ce documentaire, vous nous emmenez au sein d'un hôpital de jour parisien, un lieu dédié à la santé mentale. On va voir des personnes qui sont soignées, découvrir le quotidien de cet endroit. Mais à aucun moment vous nous décrivez concrètement et dans le détail le fonctionnement de ce lieu et où est-ce qu'on est. Pourquoi vous avez fait ce choix de nous laisser découvrir avec les images sans forcément de contextualisation?
Oh, parce que je n'aime pas faire, je suis pas journaliste et j'aime pas devoir expliquer, j'aime pas devoir surligner les choses. Ce qui m'intéresse bien davantage, c'est de proposer aux spectateurs une rencontre, une expérience. Le film ne dit pas, par exemple, qui est patient, qui est soignant, parce que c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de signe distinctif qui permet de séparer les uns des autres. C'est au spectateur de... Je laisse le spectateur face à ses éprouvés, au fond. Et il s'agit justement de ne pas lui donner les explications... je crois que bien souvent les documentaires au fond, quand ils sont trop didactiques, ils empêchent les spectateurs de réfléchir par eux-mêmes. Quand on vous explique tout, on n'a plus besoin de réfléchir au fond.
Et alors, pourquoi vous avez choisi de travailler spécifiquement sur ce lieu, sur l'Adamant ?
C'est un lieu qui résiste à tout ce qui écrase aujourd'hui la psychiatrie et l'économie, le management, les algorithmes, les diagnostics par ordinateur de plus en plus. Enfin voilà, on vit dans un monde dans lequel l'humain a de la peine à trouver encore de la place, et l'Adamant est un lieu où on essaye encore, contre vents et marées, de faire une psychiatrie humaine. Ça me semble important. Il y a des films qui dénoncent, celui-là c'est un film qui montre une voie possible, qui montre des gens qui résistent.
Et effectivement, qui montre, on observe, les choses ne sont pas didactiques. Ça, c'est très vrai. Et le film est construit sur une alternance de séquences où on peut voir à la fois le quotidien du lieu, des moments d'atelier, de vie collective, et puis des entretiens, toujours sur place. On est en permanence sur l'Adamant, avec des patients et des patientes face caméra. Alors, vous l'avez dit, à l'image, c'est assez difficile, au premier coup d'œil, de deviner qui est de quel côté de la barrière. Pourtant, on peut le comprendre, j'ai l'impression, quand apparaît le langage. Que ce soit ce qui est énoncé, ce qui est dit, ou la façon dont c'est dit. Et j'ai eu l'impression que c'était peut-être le langage qui faisait frontière.
Mais oui, sans doute, mais y a-t-il vraiment une frontière ? Toute la question est là, parce que justement, l'Adamant, c'est un lieu où les patients ne sont pas enfermés dans leur maladie. Ils ne sont pas considérés uniquement à travers leurs symptômes, mais comme des gens qui, comme tout un chacun, peut avoir des centres d'intérêt, les gens ne sont pas réduits à leurs troubles psychiques, heureusement, et du coup on les considère comme des personnes, comme des sujets, comme des êtres singuliers. Bien sûr.
On parlait de frontières, effectivement, c'est pas forcément la question. Pour autant, il y a des rôles ou des positions qui sont pas la même au sein de ce lieu. Et il y a la question de la fragilité. Un de vos témoins l'évoque aussi, il parle de visage, il dit peut-être qu'on a des gueules qui montrent qu'on est plus fragile que d'autres. Est-ce que cette question de la représentation de la fragilité, de comment faire, comment le donner à voir, comment le mettre en image, c'était aussi un des aspects que vous aviez envie d'aborder dans le film ?
Disons que le film, je pense, travaille à défaire un certain nombre d'idées reçues. Bien souvent aujourd'hui, les gens qui sont atteints de troubles psychiques, qui sont en psychiatrie, sont stigmatisés, regardés d'un un peu de travers. Ils font peur, on les pense possiblement dangereux, violents, etc. Ça arrive, mais la plupart d'entre eux sont tout à fait inoffensifs, et quand ils sont dangereux, c'est en général vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc il y a cette idée de déconstruire un peu d'estomper un peu les idées reçues, les clichés. Et puis la représentation de la fragilité, en fait les personnes qui sont filmées sont des gens vulnérables et fragiles, mais leur fragilité renvoie au nôtre. Qui n'est pas fragile, qui n'est pas vulnérable? En somme, la frontière, si frontière il y a, elle est poreuse, cette frontière. Nous avons beaucoup en commun, les patients psy et nous, ce sont des gens, on fait partie du même monde, on fait partie de la même espèce humaine. Chez eux, peut-être que les angoisses sont plus grandes, plus envahissantes, mais on a beaucoup à voir ensemble.
Alors, votre sujet, c'est l'Adamant, et vous concentrez sur ce lieu, mais pour autant, on va pas voir le fonctionnement dans l'organisation de cette institution. Il va pas être question de budget, de planning, par exemple, ou de choses un peu pragmatiques, ou même de conversations entre les soignants sur comment accompagner, comment soulager les troubles. Par contre, on voit beaucoup d'ateliers, de moments de vie, d'occupationnels, comme on peut dire. Pourquoi ce choix-là ?
Alors, quand même, vous dites on voit pas de réunion sur le budget, mais si, on voit les comptes, on fait les comptes du bar. Et ce sont les patients et patients et soignants font les comptes du bar chaque semaine. Planning, si, il y a les réunions, plusieurs réunions du lundi où on voit justement, on évoque les projets. Et c'est ça la Daman, c'est beaucoup de réunions sont co-animées, beaucoup de les comptes sont co-animés par les patients, les soignants, les réunions aussi. C'est un lieu où le quotidien se fabrique ensemble, patients, soignants. Et donc, quand il s'agit d'évoquer les projets peuvent venir de tout un chacun, une idée, tiens, si on organisait, il y a une expo, si on y allait, etc. Donc, c'est finalement, on voit pas mal comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai que je n'ai pas filmé le staff, ou plutôt, je l'ai un peu filmé, mais je ne l'ai pas gardé. Le staff, c'est ce moment où les soignants se rassemblent le matin pour parler des patients. Et au fond, j'avais pas envie qu'on parle des patients en dehors de leur présence. Je trouvais que c'était, là par contre, c'était indélicat et j'ai pas souhaité le faire.
Parce qu'effectivement, on voit bien la présence de l'équipe soignante et là, on comprend aussi que ce manque qu'on peut imaginer raconte le fonctionnement spécifique de ce lieu-là. Voilà les images qu'on peut avoir de réunions d'équipe, qu'elles se posent différemment sur l'Adamant. L'équipe soignante, effectivement, on la voit, on la devine en permanence d'accompagnement, de réponse, de dialogue. Et entre guillemets, peu importe, effectivement, de ne pas savoir qui est dans quelle position et de voir le lieu vivre. Mais vous avez aussi fait le choix, donc il y a ces entretiens qui viennent vraiment rythmer le film, où on a une parole singulière, où on a des récits qui sont rares. Et c'est aussi l'intérêt du film. Et vous avez vraiment laissé la place plutôt aux personnes qui sont du côté patient.
Oui, j'avais envie que ce soit les patients qui soient au centre du film. Alors, en effet, on voit certains soignants. En effet, ils n'ont pas d'uniforme, pas de blouse blanche, etc. Mais il y a bien des personnes dont on se dit celui-là ou celle-ci est une soignante. Mais dans le film, ils restent assez discrets. Ils sont là, attentifs, discrets, présents quand même. Voilà, mais c'est vrai que j'avais envie de privilégier la parole de quelques patients. C'est pas vraiment des entretiens, je dirais plutôt des conversations, parce que c'est un peu différent. Je n'arrive pas avec une liste de questions toutes prêtes, etc. C'est des moments où on se parle, eux et moi, de façon très très spontanée. Voilà.
Oui, ce qui se sent aussi dans l'improvisation, dans ce qui peut être aussi hors champ, se manifester de la vie, en fait, de l'Adamant. Ça m'amène un petit peu aux conditions de tournage. Vous avez tourné en équipe très réduite, de 4 à 1 personne, vous, vraiment sur place. Comment, sur le moment, vous allez choisir où va se porter votre regard, où est-ce que vous allez placer la caméra? Parce qu'il y a l'idée de d'écrire un film, là on est vraiment dans l'écriture. Comment vous faites avec ces choses que vous ne maîtrisez pas et qui vont advenir?
Les décisions souvent sont très spontanées, il n'y a pas vraiment de préméditation, sauf ici ou là, quand je décide de venir filmer telle réunion qui me semble prometteuse. Autrement, ces moments de conversation, c'est des séquences qui sont très improvisées, qui se décident sur le moment, à l'instant. Tout d'un coup, je suis en train de parler avec quelqu'un et puis je propose à la personne en question d'aller chercher la caméra. Tiens, ça m'intéresse ce que vous me dites là. Est-ce que si je prends la caméra, qu'on filme un petit peu ce que vous me racontez là, est-ce que vous êtes partante ou partant? Oui, d'accord, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi.
Donc si je comprends bien, il y a le sujet et une grande part d'improvisation au moment de la prise de vue. Et puis, c'est vous qui faites le montage de vos films, oui. Depuis plusieurs films déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que représente cette étape? Est-ce que c'est la continuité de la prise de vue? Comment ça vient faire l'écriture du film?
En fait, il ne faut pas imaginer qu'il y a d'abord le tournage, où il s'agirait d'engranger le plus de choses possibles, et ensuite le montage, comme deux choses tout à fait séparées. Non, quand on tourne, comme je le fais, d'une manière donc en effet très improvisée, eh bien, on pense montage, on fait des associations, on fait des par association d'idées au fond, on cherche des correspondances entre certaines choses qu'on a tournées ou qu'on va tourner, voilà. Et donc filmer, c'est déjà penser au montage. Et du coup, le montage, c'est pas forcément en rupture, c'est un peu en continuité. Ça vient à un moment. C'est un peu la même logique au fond. Oui.
Vous avez ouvert cet entretien avec l'idée de point de vue et de proposer un film qui ne soit pas didactique, qui ne nous dise pas quoi penser. Pour autant, faire un film, c'est aussi avoir un point de vue, poser des points de vue de caméra. Alors, dans la polysémie de ce terme, comment vous raconteriez le point de vue de votre film?
Mais déjà, décider de ne pas surligner, de ne pas appuyer, montrer les intentions du film, de ne pas enfermer les spectateurs dans son film et par ricochet les spectateurs dans une démonstration, dans un vouloir dire, dans la volonté de dénoncer, de faire du discours, etc. C'est déjà un point de vue. C'est un point de vue de cinéma. C'est un choix de cinéma. Je propose, je le redis, j'emmène les spectateurs par la main à la rencontre d'un lieu sur lequel se passent des choses que je considère comme intéressantes et importantes. Un lieu où on se parle un peu, on s'écoute. C'est pas si fréquent aujourd'hui. On vit dans un monde soi-disant de communication, mais plus personne n'écoute personne. Et sur l'Adamant, les gens qui sont là, qu'ils soient patients, soignants, etc., essayent d'inventer leur quotidien ensemble. Et c'est déjà énorme, c'est déjà très important. C'est déjà, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en psychiatrie, cette psychiatrie qui est tellement écrasée, c'est très important. Voilà, donc le point de vue du film, c'est celui-là. C'est laisser le spectateur, considérer le spectateur comme quelqu'un qui, à son tour, va pouvoir ressentir, percevoir des choses, comprendre des choses par lui-même. Un film qui peut-être peut ici ou là le déranger dans ses préjugés, dans ses certitudes, le bousculer un peu, c'est déjà beaucoup, il me semble.
C'était Nicolas Philibert à propos de son dernier documentaire sur l'Adamant qui sort en salle la semaine prochaine. Nicolas a été interviewé par Annelie, que nous remercions parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui dans le studio.
Merci Annie.
Il faut noter que ce film s'inscrit dans une trilogie autour de la psychiatrie aujourd'hui. Sur l'Adamant est le premier volet. Le deuxième volet nous emmènera dans deux unités intra-hospitalières qui relèvent du pôle Paris-Centre à Charenton. On y verra en grande partie des entretiens entre patients et psychiatres. Quant au troisième volet, il y sera question des visites à domicile effectuées chez des patients par des soignants. Vous écoutez, bien sûr, Caméra Subjective, l'émission consacrée au cinéma sur Radio G. Et maintenant, Cécile nous dresse le portrait d'une actrice.
Si je vous dis Laurie Strode, Michael Myers, Halloween Ends, Halloween Kills, Halloween... Halloween Resurrection, Halloween 20 ans après, Halloween 2 et Halloween la nuit des masques. Vous pensez à...
Une
à...
citrouille.
Jamie Lee Curtis. Bien sûr, oui, Jamie Lee Curtis. Alors, pour une entrée en matière, je vous propose un court extrait de Halloween la nuit des masques de John Carpenter et Debra Hill. Sorti en 1978, c'est le premier rôle principale de la toute jeune Jamie Lee Curtis.
What about the boogeyman?
The boogeyman is coming.
There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right?
Right.
While I'm here tonight, I'm not about to let anything happen to you.
Promise?
Promise.
À la fin des années 70, c'est difficile pour la jeune femme de se lancer dans une carrière d'actrice et de se détacher de l'image de ses parents, Tony Curtis et Janet Leigh. Mais Jamie Lee sait vite s'imposer et la rencontre avec John Carpenter et Debra Hill la lance. Son personnage de jeune fille sérieuse et courageuse, qui est la seule survivante, touche le public. Ce film indépendant et à petit budget est un succès mondial. Il explose le box-office et devient un film culte. On pourrait croire que sa carrière est lancée, mais Jamie Lee Curtis ne reçoit aucune autre proposition après Halloween. Elle enchaîne donc à nouveau les apparitions avec des petits rôles dans des séries populaires. Et ce n'est qu'en 1980 qu'elle revient au cinéma grâce à John Carpenter, à nouveau, qui lui propose le rôle principal dans son film d'horreur The Fog. Suite à ce rôle, les films se succèdent et elle devient l'actrice fétiche des réalisateurs de série B. Mais comment sortir de cette image de Scream Queen ? C'est le parcours du combattant pour Jamie Lee. Et ce n'est qu'en 1983, dans Un fauteuil pour deux réalisé par John Landis, qu'elle a enfin la possibilité de se révéler autrement, aux côtés d'Eddie Murphy et de Dan Aykroyd. Elle commence à être reconnue par la profession et obtient des récompenses. Les rôles la démarquant arrivent. Sex symbole, femme fatale, épouse soumise, prostituée au grand cœur. Mais c'est avec son humour que l'actrice va continuer à s'imposer dans Un poisson nommé Wanda en 1988. Comédie réalisée par Charles Crichton. Le scénariste de ce film, John Cleese, des Monty Python, a su voir en Jamie Lee son potentiel comique et a écrit le personnage de Wanda spécialement pour elle. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Jamie Lee Curtis. Sur le tournage de Blue Steel, qui est éprouvant, qui est sorti en 1990 et réalisé par Catherine Bigelow, Jamie Lee, toute jeune maman, se sent fragilisée de voir très peu ses enfants, son premier enfant. Elle décide alors de quitter les plateaux de cinéma pour se consacrer à sa famille. Elle choisit de jouer dans une sitcom humoristique et populaire. Mais dans les années 2000, Laurie Strode est de retour. Elle revient dans une production financée par un studio et dans les années 2020, la trilogie d'Halloween sort au cinéma. Jamie Lee Curtis porte le projet et retrouve son personnage. La question du trauma abordée à l'écran fait écho au mal-être de l'actrice. Son personnage a évolué et mûri en même temps qu'elle. Laurie Strode est maintenant une grand-mère qui doit protéger sa petite fille. Mais dans ses derniers opus, le message est clair. La final girl n'est plus seule et les femmes ne doivent plus être des victimes. En 2016, dans une interview donnée à Kevin Pollak dans le talk show Kevin Pollak's Chat Show, Jamie Lee Curtis avoue n'avoir jamais eu confiance en elle et perdu énormément de temps dans sa vie à se dire qu'elle n'était pas assez bien, que les autres étaient meilleurs. Elle dévoile également son addiction aux médicaments et à l'alcool. Tout au long de sa vie, sa force a été l'autodérision et cela lui a permis de se démarquer. Au fur et à mesure de ses rôles, elle a su rester libre et elle-même, échappant ainsi au dictat hollywoodien. Et en mars de cette année, à 65 ans, Jamie Lee Curtis est à nouveau récompensée. Elle obtient l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle de contrôleuse fiscale aigrie dans la comédie déjantée Everything, Everywhere, All at Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Une histoire d'univers parallèle et de famille dysfonctionnelle empruntant aux référents de la pop culture. Un extrait des Oscars.
And the Oscar goes to...
Et l'Oscar est décerné à...
Jamie Lee Curtis!
Jamie Lee Curtis made her big screen
a commencé Halloween. Dans les classiques Halloween. 45 ans plus tard, elle était productrice exécutive de la dernière partie Halloween Ends.
Ce qu'on n'entend pas, mais qu'on voit à l'image de la cérémonie, c'est qu'à l'annonce de sa nomination, Jamie Lee prononce ces mots « Ah, shut up !» Trop forte, cette Jamie Lee. « Everything, everywhere, all at once », sorti au cinéma à la fin de l'été, le 31 août, passe actuellement sur OCS, si vous voulez le voir ou le revoir. Et juste encore, un dernier petit extrait d'Halloween, parce que, alors, mon péché mignon, ce sont les films d'horreur. Et alors ça, c'est cadeau.
He's waited for this night. He's waited for me. I've waited for him.
Get out the room! Get inside!
You don't believe in the boogeyman?
He's here!
Michael! You should.
Eh bien, Cécile, merci pour ce portrait. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Mais en tout cas, avant de conclure notre émission, nous avons encore le temps de vous parler d'un film qui est à l'affiche et qui nous est cher. Et pour cela, je te passe le micro, chère Sandra.
Très brièvement, en fait, je voulais juste vous dire un mot pour vous inviter à découvrir un film qui, effectivement, passe encore sur les écrans cette semaine, le long métrage Normal d'Olivier Babinet, avec la jeune Justine Lacroix, désarmante de naturel, et Benoît Poulvord, comme vous ne l'avez jamais vu, et c'est pour le mieux. C'est l'histoire d'une ado hors des cadres et à l'imagination débordante qui essaie de s'en sortir avec son père atteint de sclérose en plaques. Évidemment, l'équilibre est précaire pour la demoiselle qui ne se laisse pas démonter pour autant. On écoute un bout de la bande-annonce. Oui.
Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches par un tapis?
Papa, t'as pas appelé DF?
Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats.
T'as dormi là ou quoi?
Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite.
Une petite visite?
Oui, juste pour voir comment ça se passe.
Y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de toi.
Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux.
Arrête! Ah,
on se débrouille, non?
Justement, on va lui montrer comment on se débrouille.
Alors, en fait, c'est un film que j'avais découvert en avant-première au Festival Premier Plan et c'est un de ceux qui m'a le plus marqué en ce mois de janvier. Et juste, voilà, si je devais qualifier ce film en quelques mots, je dirais onirique, délicat, inventif, touchant et drôle. Oui, rien que ça, mesdames. Donc, je vous invite à aller le voir en famille avec vos jeunes. C'est vraiment intéressant, le rapport à l'adolescence, à la famille, aux relations familiales, et aussi la façon dont elle envisage son rapport au monde. C'est assez chouette. Voilà.
Finalement, le titre Normal n'est peut-être pas le plus adapté, vu toutes les récompenses que tu lui attribues.
C'est complètement personnel. J'invite les auditeurs et auditrices à partager leur avis sur ce film s'ils ont l'occasion de le voir.
En attendant, Caméra Subjective, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans 15 jours, toujours pour parler de cinéma avec amour.
Toujours.
Vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission et toutes les autres sur le site de Radio G, à la page de l'émission. Très bonne soirée et bon film.
Au revoir.
www.radio-g.fr.
In my head, I need you by my side. You left me to fill up your eye. I won't say mine's out dry. Building gutters under my tired eyes.